Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur, imaginez une élection où le résultat donne presque le vertige. 12 138 voix contre seulement 44.
C'est fou, oui.
C'est le score complètement invraisemblable du référendum du 10 septembre 1967. Les habitants de Gibraltar devaient choisir rester liés au Royaume-Uni ou passer sous souveraineté espagnole.
Un choix historique.
Absolument. Et pour moi, ce vote massif incarne vraiment le triomphe absolu de l'autodétermination. C'est la fondation d'une identité propre, totalement assumée face à son voisin.
Je l'entends, je suis d'accord sur la clarté du chiffre, mais ces 44 petites voix sur un rocher de moins de 7 km², elles révèlent surtout la naissance d'un paradoxe totalement insoutenable.
Un paradoxe.
Oui, parce qu'en niant sa réalité géographique immédiate, ce choix de 67, en fait, enfermer Gibraltar dans une impasse. C'est une anomalie territoriale qui vient tout juste d'être sauvée par le pragmatisme économique du traité de juillet 2026.
Mais attends, peut-on vraiment parler d'anomalie quand près de 96% des électeurs se déplacent pour dire non? Ce n'était pas juste un attachement sentimental au drapeau britannique, quoi.
C'était aussi de la peur, non?
C'était plus que ça. Il faut se rappeler qui sont les Gibraltariens. C'est un peuple métissé, façonné par des générations de marchands génois, de maltais, de juifs séfarades. Ce vote, c'était d'abord le rejet viscéral de la dictature de Franco. Ils n'ont pas fait un choix par défaut. Ils ont littéralement coulé les fondations d'une identité constitutionnelle pérenne. J'en suis intimement convaincu.
Alors, que l'identité se soit forgée, c'est indéniable. Mais à quel prix matériel ?
La liberté a un prix.
Sauf que cette décision politique a provoqué une véritable asphyxie. Franco a répliqué par l'étranglement total, la fermeture brutale de la frontière terrestre en 1969, qui a duré 16 longues années.
C'était une épreuve, c'est sûr.
Des familles entières ont été déchirées. Une économie locale a été coupée net de son arrière-pays andalou. Donc, les faits prouvent qu'une posture politique, aussi légitime soit-elle démocratiquement, finit toujours par se fracasser sur la dépendance géographique. Je suis forcé de le constater.
Justement, c'est exactement cette épreuve du blocus qui a rendu Gibraltar indestructible.
Ah bon ?
Oui. Dès la Constitution de 1969, une règle d'or a été gravée dans le marbre. Aucun transfert de souveraineté ne pourra se faire sans l'accord explicite des habitants.
Le fameux veto populaire.
Voilà. Et cette réalité politique a tenu. Regardez le référendum de 2002. Le refus d'une souveraineté partagée avec l'Espagne a atteint 98%. Le rempart démocratique a largement dominé la contrainte géographique, non ?
C'est séduisant sur le papier. Mais cette prétendue invisibilité, elles masquent en réalité une vulnérabilité extrême liée à leur dépendance envers Londres.
Ils sont britanniques, c'est naturel.
Oui, mais on pourrait croire que la couronne britannique les protège. Or, l'ironie du Brexit prouve exactement l'inverse.
Ah, le Brexit.
Oui, les Gibraltariens ont voté à 96% pour rester dans l'Union européenne. Pourtant, parce que leur souveraineté dépend du Royaume-Uni, ils ont été arrachés à l'Europe contre leur volonté. Ils se sont retrouvés piégés économiquement parlant.
Piégés, c'est un mot un peu fort.
Le traité du 14 juillet 2026 confirme ma lecture. En supprimant enfin les contrôles à la frontière terrestre, on admet que la nécessité d'une viabilité économique a dû supplanter le splendide isolement de 1967.
Alors là, c'est une lecture très réductrice du traité, je trouve. Prenons une image, si vous voulez bien.
Allez-y.
En 1967, face au siège imminent de l'Espagne franquiste, Gibraltar était une forteresse qui a, tout à fait logiquement, relevé son pont-levis.
C'est une belle image, ouais.
Ce qui se passe avec l'accord de 2026, c'est simplement qu'on rabaisse ce pont-levis pour s'adapter au monde moderne. On laisse passer, sans friction, les milliers de travailleurs journaliers andalous qui sont essentiels à l'économie locale.
Totalement essentiel, oui.
Exactement. On reporte les contrôles au port et à l'aéroport pour intégrer l'espace de libre circulation. Mais, et c'est crucial, on ne remet jamais les clés du château à Madrid. La souveraineté britannique est totalement préservée.
Bon, le pont-levis s'est baissé et le drapeau britannique flotte toujours, je vous l'accorde. Mais détruire par la négociation ce que l'on appelle le fameux « dernier mur d'Europe occidentale », c'est avouer les limites du mythe politique de 67.
Une adaptation ? Plutôt qu'une limite ?
La géographie est têtue. On ne peut pas vivre indéfiniment le dos tourné au continent auquel on est physiquement rattaché, même avec la volonté démocratique la plus farouche du monde.
C'est fascinant parce que ce face-à-face entre le droit à l'autodétermination et la tyrannie de la géographie illustre un équilibre extrêmement fragile sur ce petit bout de rocher.
Complètement. Et s'il y a bien une certitude dans toute cette histoire, c'est que les 44 partisans de l'Espagne de 1967 n'ont laissé aucune descendance politique. L'identité gibraltarienne n'a jamais cédé d'un pouce sous la pression.
Absolument. La frontière, qui était jadis perçue comme une menace existentielle, devient aujourd'hui une simple ligne que l'on traverse sans même s'arrêter.
Une ligne fluide, oui.
Mais quand on abaisse finalement ce pont-levis, la question reste entière. Qui transforme vraiment l'autre ? Le petit château de Gibraltar ou l'immense continent européen ? Il y a de quoi réfléchir.
C'est une excellente question pour conclure.
Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.